I'm gonna leave it with this one. So we're taking it right and slow. Check out more of this Jamaican soul session, right? Running away.
Yo, what up? It's Tester Man from Tester Logic. You're listening to my favorite radio station, CKUT, 90.3 FM in Montreal.
There is this thing. Do you realize Do you realize
consciousness is affected?
There is this thing
on.
There is this thing going on.
What
do you realize?
Our consciousness is affected.
There is this thing going on.
What is called?
The news brought to you live.
It's November 3rd, 2022, and you're listening to No One's Legal Radio, part of CKUT's Off the Hour at 90.3 FM in Montreal and www.ckut.ca worldwide. Today's show is in French as we interview two activists involved with the disruption and occupation of the Valero oil terminal of the Enbridge 9B pipeline in Montreal East at the port, an action that took place on October 19th, 2022. The protesters, part of an affinity group called the Collective Antigone, blocked the entry to the terminal with a shipping container while various protesters locked down inside. Meanwhile, six protesters climbed onto the towers used to fill the tanker ships with oil from the pipeline and effectively prevented the delivery of upwards of 300,000 barrels of oil that day. On today's show, we speak with Emily Zajko and Jacob Pirro, who are both involved in the action. They describe in detail how the action played out, from the initial occupation to eventual police arrest. They also describe the reasons for opposing the Enbridge 9B terminal, but also the broader context of anti-capitalist and anti-colonial opposition to extractivism. We go to the interview in French with Emily Zajko and Jacob Pirro right now. Je suis en ligne avec Emily et Jacob. Emily et Jacob sont membres du collectif Antigone. Jacob était un de les grimpeurs et Emily était une de les militantes dans le container pendant une action symbolique, mais aussi une action directe à Valero, terminus de la ligne oléoduc Enbridge 9B. On va parler de tout ça, Valero Enbridge 9B, dans quelques instants. Mais d'abord, bienvenue à No Borders Media, Jacob et Emily.
Merci. Bonjour.
Merci.
Emily Jacob, récemment, vous avez, le 19 octobre, ici à Montréal, sur l'île de Montréal, vous avez participé dans une action directe. Le Monde a levé ce matin, mais vous avez levé très, très tôt, si je comprends bien. Et vous avez fait une action. Alors, décrire pour nos auditeurs et auditrices, c'est quoi exactement l'action que vous avez entamée ce matin-là, le 19 octobre, il y a quelques semaines à Montréal?
Je peux commencer. Dans le fond, ce matin-là, on s'est réveillé pour aller bloquer, comme vous l'avez dit, le terminal 9B de Enbridge, donc le terminal Valero de la ligne 9B de Enbridge, qui est un pipeline vieux 45 ans qui se doit d'être fermé. Et donc, on s'est réveillé ce matin-là avec l'intention de bloquer ce pipeline-là avec des activistes qui sont grimpés dans les tours, qui permettent de mettre le pétrole, de faire passer le pétrole de la ligne 9B au bateau qui va les amener à la raffinerie, et avec un container au sol qui servait à bloquer les moyens pour la police de se rendre aux grimpeurs et grimpeuses dans les airs.
Emily, peut-être tu peux parler plus de comment la journée a déroulé dans ta perspective comme quelqu'un qui a occupé le container.
Et oui, tout à fait. En fait, il y avait eu le container qui était préparé depuis quelques temps. Et l'idée, c'était vraiment que ça soit un mécanisme de ralentissement. Alors, il avait été renforcé et tout. Il a été déplacé le matin même, puis il a été installé vraiment devant la guérite là, où les employés rentrent et sortent. Fait que ça s'est fait aux petites heures. Vraiment, le trailer sur lequel le container était déposé a été jacké, les roues ont été percées, puis les activistes sont rentrés à l'intérieur à ce moment-là. On avait quatre femmes à l'intérieur. Puis on avait également deux personnes qui étaient enchaînées à l'extérieur. Donc, une personne sur le toit, une personne sur le côté. À ce moment-là, tôt en matinée, on avait une manif de solidarité pour encourager les activistes. Puis on avait une présence médiatique également. Fait que pendant le déploiement là, du container sur lequel il était écrit « Le vivant se défend », parce que c'est vraiment le message clé qu'on veut envoyer, là, que on fait partie des écosystèmes, qu'on est en situation d'urgence climatique, puis que des actions comme ça, ça ils sont morales, puis sont vraiment de l'ordre de la légitime défense, parce que des infrastructures comme le pipeline 9B, vraiment, ça met en danger l'eau potable. De façon parallèle, là, pendant que les gens se sont installés avec le container pour faire un blocage pour les véhicules d'urgence ou quoi que ce soit, les grimpeurs sont montés dans le fond dans deux tours qui étaient sur le bord de l'eau, sur un terrain, je pense, qui appartient au port de Montréal. Si je ne me trompe pas, Jacob, je ne sais pas si...
je pense que oui, mais je ne suis pas certain à qui appartient, mais je pense que c'était le port de Montréal.
Mm-hmm. Fait que oui, le déploiement s'est fait vraiment tout en matinée, puis rapidement, on a eu l'attention médiatique, ça a circulé... dans les journaux, à la radio, comme quoi il y a des activistes qui bloquaient vraiment 9B, le terminal de Valero.
Jacob, parlez un peu de grimper ces tours et comment vous avez fait ça. Si je comprends bien, il y a plusieurs personnes qui ont fait ça. C'était quoi le motif? C'était aussi pour perturber, pour prolonger l'action. Parlez un peu de ça et l'expérience de grimper un tour comme ça.
Oui, c'est toute une expérience déjà. Dans le fond, on était 6 grimpeurs et grimpeuses ce jour-là. Il y a 2 tours qui... C'est ça, ces tours-là permettent de faire passer le pétrole de la ligne 9B vers le bateau. Et donc, on a décidé de grimper ces tours-là. On était 3 activistes de chaque côté. Il y avait 2 tours. Et donc, dans le fond, c'est ça. On est entraîné pour l'escalade industrielle. Et donc, c'est des techniques d'escalade industrielle classiques avec des cordes de vie, des poulies, des façons de juste s'assurer de grimper le plus haut possible parce que, oui, c'était pour empêcher le bateau d'être rempli, mais c'est aussi parce que c'est quand même difficile pour les forces de l'ordre de faire sortir des activistes qui sont perchés 66 pieds au-dessus du sol, surtout considérant que on avait des chaînes ce jour-là, et donc, parce qu'on est sur un pipeline, la police ne peut pas utiliser de scie pour couper ces chaînes-là, parce que ça pourrait tout faire sauter, et donc, c'est ça. C'était une façon de rester à la fois le plus longtemps possible, mais aussi de perturber le plus possible le fonctionnement de cette ligne-là.
Emily, parlez un peu de le déroulement de la journée. Combien d'heures est-ce que vous étiez là? C'était quoi la réaction des travailleurs, travailleuses de lieu, de le site? C'était quoi la réaction de la police? Combien d'arrestations, les réactions médiatiques? Il y a beaucoup là, mais parlez un peu du déroulement de la journée.
Oui, bien sûr. En matinée, dans le fond, on avait la manif de soutien là, qui était présente autour du container. Déjà, là, nous, au moment de rentrer, on avait des tout petites fenêtres là, avec lesquelles il y avait un plexiglas et puis des morceaux de bois. Donc, on était en mesure de voir un petit peu ce qui se passait à l'extérieur, mais de les refermer. Donc, pendant plusieurs heures, là, il y avait présence de gens autour. C'était festif, là, il y avait de la musique, des slogans, tout ça, de façon très pacifique. Là, on avait des bannières et tout. Éventuellement, la police a décidé de créer un périmètre de sécurité. Donc, ça serait à confirmer, mais il me semble que c'était peut-être autour de 8-9 heures le matin. Ils ont fait un périmètre qui était quand même significativement large. Là, donc, les activités en soutien avaient un certain contact visuel, mais étaient quand même très éloignés du container, fait qu'ils ne pouvaient pas nécessairement bien voir ce qui se passait. Moi, personnellement, j'étais dans un mécanisme qu'on appelle le Lorax. Donc, on avait dans le plancher du container, on avait un trou par lequel on a glissé une espèce de boîte bétonnée dans laquelle il y avait un tuyau de PVC avec des façons de s'attacher à l'intérieur. Donc ça, l'idée, c'était d'empêcher que le container soit soulevé. Donc moi, par exemple, j'étais couchée sur le plancher du container avec mon bras relié à la boîte de béton qui était vraiment très, très lourde et qui était vraiment ancrée dans le sol. Bien, déposé sur le sol. mais qu'on ne pouvait pas déplacer étant donné que mon bras était à l'intérieur. Donc, les forces policières ont pris connaissance de ce mécanisme-là, ont constaté que vraiment, il y avait un membre à l'intérieur. Ensuite, les premières choses qu'ils ont fait, ça a été de déloger les personnes qui étaient enchaînées à l'extérieur du container. Puis pour ça, ils ont déployé vraiment toute l'artillerie. Là, ils ont gonflé des structures pour la personne qui était dans le haut. Ils sont allés avec des grandes échelles et tout ça. Fait que ça a été la personne sur le dessus qui a été délogée en premier, qui était enchaînée également par les pieds là, sur le toit du container. Ensuite, on avait une activiste qui était sur le côté, qui avait un cadenas là, qu'on a, de type U-lock là, pour les vélos qui étaient autour du cou. Au moment évidemment, ils cherchent à négocier puis à ce que les gens s'enlèvent d'eux-mêmes. Mais comme ce n'est pas le cas, ils doivent nous déloger de ce mécanisme-là. Fait que c'est vraiment des unités spécialisées là, en décadenassage. Ils en ont vu d'autres. C'est long, mais ils savent ce qu'ils font. C'est pas la... Quand ça arrive, ce n'est pas la première fois. Par contre, pour déloger l'activiste qui était assis, ils ont vraiment érigé une tente autour. Fait que là, les activistes de soutien n'avaient vraiment aucun visuel, ce qui était super inquiétant pour eux. On avait la documentariste, là, Anaïs Barbeau-Lavalette, qui était un peu proche et qui essayait de filmer avec la caméra. Donc ça a pris vraiment plusieurs heures. C'est des longues étapes pour tout le monde. Éventuellement, dans la journée, en après-midi, ils ont réussi à percer comme un peu des tiges de métal puis de caméra à travers les petites fenêtres. Eux, ce qu'ils semblaient dire, c'est qu'ils voulaient savoir qui était où dans le container. Nous, on était 4 personnes en mesure de se cadenasser aussi. Fait que, il y a eu un petit va-et-vient de tenter de bloquer les caméras, tout ça, mais ils se sont pris à plusieurs reprises. Fait qu'éventuellement, tout le monde s'est cadenassé. Nous, on avait caché l'ouverture par laquelle on était rentré son mécanisme. Alors, à ce moment-là, ils ont pas eu le choix de créer une autre ouverture dans le container carrément, mais le container, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il était bétonné, il y avait du métal, il y avait du bois, fait que c'était super long. Ils ont dû utiliser plusieurs lames, plusieurs outils, là, mais vraiment, ils ont créé une ouverture. Ça leur a pris plusieurs heures. Puis je dirais qu'autour de... vers 7 heures le soir, peut-être 8 heures, ils avaient réussi à rentrer, à prendre connaissance des lieux. Puis c'était vraiment... c'était assez surréel parce que nous, à l'intérieur, c'était super pacifique. C'était un petit milieu de vie. Il y avait ce qu'il fallait pour rester un certain temps. Des petites lumières, on avait de la musique et tout. Fait que c'était vraiment... Je ne sais pas à quoi ils s'attendaient en rentrant, mais... rapidement, ils ont vu que en fait qu'on était là pour rester puis qu'on avait des demandes claires en fait par rapport au danger que cette ligne-là pose pour l'eau potable. Fait que là, ils ont délogé une première personne. Il y a eu des fouilles complètes, là, vraiment exhaustives du corps avec même à l'intérieur de la couche et tout ça là, pour les personnes qui avaient une clé pour le cadenas. Donc, ça, c'est un des éléments qui sont arrivés là, dans le container. Donc, la première personne, ils ont trouvé la clé. Ensuite, la seconde activiste dans le container, ils ont dû scier le U-lock, là, comme pour la personne qui était à l'extérieur. Après ça, vers 9h40, moi, j'ai fini par être délogée du mécanisme du tuyau de PVC au sol, qui était relié au sol. Puis ensuite, ils ont délogé une personne qui était dans les airs, là, dans un mécanisme similaire. Mais qui était plus près du plafond là, sur une poutre de bois. Il y avait des hamacs aussi pour permettre d'avoir des présences un peu partout dans le container. Fait que nous, de notre côté, je pense que vers peut-être 11 heures, là, tout le monde était sorti du container. Ensuite, eux ont dû le déplacer carrément. Puis peut-être, Jacob, si toi, tu veux parler juste un peu côté grimpeur, là, comment ça s'est passé pendant la journée. Nous, ça a été vraiment long, là, une personne à la fois, un mécanisme à la fois, avec différents outils, tout ça, mais ouais.
Avant que Jacques parle, je veux juste mentionner à nos auditeurs et auditrices que nous avons eu un automne très doux ici à Montréal, mais malheureusement, cette journée-là n'était pas doux. Il y a beaucoup de pluie, c'était froid, et je sais que ça a eu un effet sur tout le monde, bien sûr, mais surtout sur les grimpeurs et grimpeuses. Alors, oui, Jacob, parler de le déroulement de la journée dans ton perspective en eau, dans la pluie et le froid, comme un grimpeur.
Absolument, je peux faire ça. C'est ça, en fond, nous, on est arrivé, il était autour de 4h15, 4h30. Nous, on passait sur le côté. Dans le fond, sur l'emplacement, il y avait une clôture avec des barbelés. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait prendre une échelle, mettre un tapis sur les barbelés, un classique façon de passer par-dessus un barbelé. Mais ce qu'on ne s'attendait pas, c'est qu'à la seconde qu'on mette le tapis, l'alarme se met à sonner. On n'était pas préparé à ça du tout. Et donc, cette alarme-là, que le speaker était à peut-être 3 mètres de nous, c'est une alarme qu'on entendait jusqu'à loin, là. Donc, c'était vraiment une alarme qui était très forte. On ne s'attendait pas à ça. Donc, il y a eu cette espèce d'effet déstabilisant dès le début. Donc, on a continué. On demandait tantôt par rapport aux gens qui travaillent sur place. On n'a pas vraiment eu de problème avec les gardes qui étaient là. Les gardes semblaient être blasés plus qu'autre chose. Ouais, je pense que les gardes étaient conscients que c'était pas, on n'était pas une menace dangereuse. Justement, comme à l'allure qu'on a, je pense que c'était difficile de penser qu'on venait pour faire quelque chose de violent ou de dangereux. Puis on leur répétait. Et donc, on s'est pointé. On a fini par grimper sur nos cordes. C'est ça, on a utilisé des poulies pour monter tout notre matériel. On avait énormément de matériel parce qu'on était déterminé à rester aussi longtemps qu'on le pouvait. Donc, on avait amené des tentes, des sacs de couchage, des hamacs. On avait de la nourriture, du linge de rechange. On avait tout ce qu'il faut pour passer autant de temps qu'il faut en haut. Mais c'est ça, dans le fond, on a pris beaucoup plus de temps qu'on pensait à monter dans la structure. Donc, moi, je suis resté, je pense, les 2, 3 premières heures de l'action sur le premier palier de la structure. En fait, on a grimpé avec l'échelle et ensuite, on a attendu que nos premiers de cordée, donc les personnes qui montaient dans la structure sans avoir la corde d'ascension, qu'on appelle en escalade industrielle. Donc, la corde d'ascension, c'était la job de 2 de nos grimpeurs-grimpeuses de monter avec d'autres équipements, mais c'est beaucoup plus long. Et donc, ces deux-là sont montés en premier pour se rendre jusqu'en haut. On a descendu leur corde, mais finalement, ça a pris très longtemps. Et donc, on a passé. Moi, j'ai passé une partie de la journée au premier palier, c'est ça. Et donc, j'avais accès aux têtes, aux visages des employés, surtout du bateau, qui nous insultaient, qui nous. Il y en a un qui a essayé de nous cracher dessus. Bon, on était 15 mètres dans les airs, donc il a pas réussi. Mais ouais, je pense que c'est ça. Les employés du terrain semblaient nous regarder comme si on était une nuisance. Les employés du bateau nous regardaient comme si on était l'ennemi. Donc, c'est surtout ça qu'on a remarqué, comme la différence entre les deux façons, les deux attitudes par rapport à notre action, des gens qui étaient là sur le terrain. Donc, ouais, on est finalement vers 11 heures, je pense. Moi, je suis peut-être. Non, peut-être pas 11 heures, peut-être 9 heures. 8-9 heures, je finis par monter à une ouais, vingtaine de mètres, trentaine de mètres en haut. Je sais pas, bon, je vous avoue que je suis pas super bon avec les distances. Mais ça, donc moi je me suis installé là, je me suis enchaîné. Et donc c'est là qu'on a vu la police arriver à ce moment-là. Donc il y avait la police et il y avait comme les policiers militaires. Donc c'est comme des policiers en habits d'armée. On a vu vers 11 h midi des policiers militaires sortir un sniper rifle qu'on se doutait qu'ils n'allaient pas utiliser parce que ça reste qu'on est attaché sur un pipeline. Mais tu sais, on voyait comme différentes tactiques comme d'intimidation et il y en avait qui étaient au cinquième. Ouais, et donc c'est ça, on pouvait se rendre, la police pouvait se rendre jusqu'à nous, mais parce qu'on était enchaînés et parce que la police n'avait pas accès aux scies mécaniques pour détruire nos chaînes au pipeline, ça fait qu'il n'y avait pas vraiment de possibilité pour eux de nous descendre avant d'avoir l'équipement disponible, l'équipement nécessaire. Mais ça reste que toute la journée, ils ont essayé de nous convaincre, ils ont essayé de nous faire des sortes de deals qu'on. Nous, on ne parlait pas avec la police. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, alors qu'il a fait beau pendant tout l'automne, il faisait beau. C'était comme un automne qui était vraiment doux, justement. Et donc, ce jour-là, pour une raison comme par pur hasard, j'imagine qu'il a commencé à grêler. Donc, tu sais, oui, il y avait de la pluie, mais il y avait aussi de la grêle. Donc, sur nos casques, on entendait les morceaux de glace nous tomber dessus. On n'avait pas eu le temps de mettre nos tentes. On n'avait pas eu le temps de vraiment s'installer pour être confortable. Donc, c'est sûr que ça n'a pas aidé. Pour le moral, surtout. Puis c'est ça, en fait. Moi, c'est vers... Moi, je suis resté 18 heures dans la structure. Les derniers à être partis, ça faisait 23 heures. Je suis resté 23 heures dans la structure. Donc, de 4, j'ai dû partir vers 10 heures, quelque chose comme ça. C'est ça, moi, j'étais le deuxième à avoir été enlevé. Puis, tu sais, contrairement, je pense, aux bloqueuses au sol, nous, c'est quand même arrivé rapidement. C'est vraiment arrivé en deux phases, en fait. Il y a 4 personnes qui sont parties quasiment d'un coup. Dans la même heure, il y a 4 personnes qui ont été sorties. Et ensuite, ça a pris 5 autres heures pour se rendre aux deux derniers grimpeurs.
Emily Jacob, merci beaucoup pour cette description très détaillée de le déroulement de la journée. Mais c'est quoi les conséquences légales? Il y a des arrestations, c'est quoi les accusations, c'est quoi le suivi de ça? Je pense que nos auditeurs et auditrices, surtout celles qui sont, si je peux dire, des partisans de l'action directe, veulent savoir cet aspect des choses aussi.
Côté activiste dans le contenu, au moment de nous mettre en état d'arrestation, là, ce qui a été mentionné, c'était entrave, méfait et entrée par infraction, si je me souviens bien.
Okay. Ouais, c'était pareil pour les grimpeurs et grimpeuses. C'est les mêmes choses. Mais on a été, je pense pour vous, c'est pareil, on a été relâchés sans condition et sans passer par la prison. En fait, on nous a vraiment juste fait signer un papier. T'sais, ils nous ont fouillé, comme ils nous ont bien fouillé, là, c'était pas forcément grave. Puis ensuite, ils nous ont juste laissé partir. T'sais, ils nous ont posé quelques questions. Puis moi, ils m'ont juste comme laissé partir. Puis ils m'ont comme reconduit une rue plus loin que la meuf de soutien. Donc, j'ai pu juste me pointer à la meuf de soutien après. Je pense qu'ils ont pris la décision justement de ne pas faire une espèce de éclat médiatique avec nous qui allons en prison par la suite, puis comme avoir plus de presse sur l'action. Donc, ils ont pris la décision de nous laisser partir sans condition pour l'instant.
You're listening to Noah's Legal Radio, part of CKUT's Off the Hour at 90.3 FM in Montreal and www.ckut.ca worldwide. You're listening to an interview in French with Emily Zajko and Jacob Pirro, who are both part of the disruption and occupation of the Valero oil terminal of the Enbridge 9B pipeline in Montreal East on October 19, 2022, a direct action that successfully prevented the delivery of upwards of 300,000 barrels of oil on that day. We'll continue with that interview now. Alors, Emily Jacob, ma prochaine question, c'est pourquoi cette action? Peut-être c'est évident, mais pourquoi cette action, pourquoi une action directe comme ça pour perturber, pourquoi c'est nécessaire de faire ça? Et pourquoi cet symbole en particulier, le terminus de Oléoduc Enbridge 9B à l'est de l'île de Montréal? Peut-être on peut commencer avec Emily.
Oui, bien sûr. En fait, c'est ça, il y a comme deux volets. Là. Il y a un peu pourquoi la désobéissance civile, l'action directe et pourquoi cette cible-là. Dans le groupe, là, on a quand même vraiment plein de militants de longue date qui ont l'habitude des manifestations, des pétitions, de l'implication politique, des grèves. Il y en a qui se sont présentés en politique, ça n'a pas fonctionné. Fait que je pense que ça s'inscrit vraiment dans une escalade puis dans prendre des mesures qui sont... À la hauteur de l'urgence climatique, en fait, le rapport du GIEC est super clair. Les réductions doivent vraiment cesser de façon très, très prochaine. Fait que oui, en fait, c'est de faire des actions d'éclat, mais aussi d'avoir une réflexion par rapport à d'autres actions qui ont été faites par le passé, notamment quand il y a des activistes qui ont grimpé le pont, Jean Cartier avec le groupe Extinction Rébellion. Il y a beaucoup de critiques qui avaient été posées par rapport au fait de prendre les citoyens en otage ou est-ce que ça sert à quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui avaient été fâchés, ça avait fait parler de... Ça avait amené beaucoup de débats, de discussions, les gens étaient allés à tout le monde en parler et tout ça. Fait, évidemment qu'il y a une réflexion qui se pose, puis justement, bien, cette action-ci, elle avait vraiment été conçue dans l'idée de prendre une cible très précise. Le pipeline, là, la ligne 9B, elle transporte le pétrole le plus polluant, là, les sables bitumineux en Alberta, c'est une catastrophe. Non seulement ça, le pétrole qui circule dans cette ligne-là, c'est du bitume dilué. Fait que ça, c'est super dangereux parce que ça coule directement dans le fond. C'est vraiment difficile à ramasser. Et l'entreprise Enbridge, en fait, est responsable des pires déversements terrestres en Amérique du Nord, là, à la rivière Kalamazoo. Ça a eu lieu il y a super longtemps, puis ils n'ont toujours pas terminé de se remettre là, du désastre écologique. Fait que c'est entre autres parce que cette compagnie-là elle a un historique de négligence, puis parce que la ligne est vieille de 45 ans, est corrodée à menace de fuir à tout instant. Fait qu'il y avait beaucoup de demandes très précises par rapport à justement avoir des mécanismes de détection des fuites, revoir la membrane, d'avoir un plan clair en fait pour diminuer le pétrole qui circule à l'intérieur et fermer la ligne. Puis tout ça directement lié vraiment à la protection puis à l'accès à l'eau potable. On parle de 3 millions de personnes au Québec là, qui seraient affectées s'il y avait un déversement, que leur eau potable elle serait en danger. Fait que, d'une certaine manière, la cible était choisie de façon très stratégique parce que elle incarne en fait la nécessité de rompre avec les énergies fossiles, de protéger nos cours d'eau, nos ressources, mais aussi de façon plus large, ça symbolise tous les autres pipelines et toutes les autres infrastructures desquelles on doit vraiment se retirer pour une transition juste. Puis vraiment, c'est ça, pour mettre en place une justice climatique. Fait que oui, la désobéissance civile parce que les GES continuent d'augmenter. Alors, il faut qu'on essaie autre chose, il faut qu'on soit créatif et créatif, puis qu'on se fasse entendre, qu'on ne demande pas. Les GES augmentent, puis on ne peut pas juste attendre des élections aux 4 ans, que quelqu'un veuille bien faire quelque chose. Il faut l'imposer dans le discours social.
Et Jacob, selon toi?
Oui, moi, je ne sais pas ce que j'ajouterais. Émilie, tu as vraiment bien expliqué ce que je voulais dire. Juste pour me donner un peu de contexte par rapport, quand on parle de négligence de Enbridge, par rapport à leur fuite à Kalamazoo, leur réponse a été de payer de la pizza aux gens qui ont eu le cancer à cause de leur pétrole. Comme, c'est vraiment, dans ma tête, c'est comme une image forte qui Enbridge représente vraiment l'avidité des corporations. Right? C'est une compagnie qui est au courant qu'elle détruit nos ressources naturelles, elle est au courant qu'elle détruit les vies. Et malgré tout, elle continue d'exister. Et pour une raison qui, malheureusement, on connaît, les gouvernements la laissent faire. Et donc, c'est au moment où on réalise, surtout avec la COP qui s'en vient, puis le nombre de COP qu'on a vu par le passé. Et donc, comme Emily disait, les gaz à effet de serre ne font qu'augmenter. On réalise que les seules personnes qui ont vraiment ce pouvoir-là d'agir, et en fait qui ont ce pouvoir et la motivation d'agir, c'est vraiment le peuple. C'est vraiment les gens comme vous et moi, right, qui sont juste motivés à essayer de se battre pour un monde plus juste, un monde meilleur. On parlait de justice climatique. Ces pipelines-là, les gens qui sont les plus vulnérables vont être les plus affectés par cette avidité des corporations. Et donc, c'est ça. C'était à la fois symbolique, mais pour une fois, c'était aussi une action directe qui a eu des conséquences économiques sur cette entreprise-là. Right? À chaque jour, ce bateau-là qui passe à chaque jour ou à chaque 2 jours a une capacité de 300 000 barils de pétrole. Et donc, ce jour-là, pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps, ce bateau-là est parti vide. Et donc, ça représente des millions de dollars de pertes, 300 000 barils de pétrole brut. Donc, on réalise que c'était une cible qui était à la fois symbolique, comme Emile disait, et aussi très, très concrète, dans le sens que c'est exactement ce qu'on veut, que ce bateau-là reparte vide le plus souvent possible. Et donc, si on peut permettre qu'une journée, ce bateau-là reparte vide, je sens que c'est un message qui vaut la peine d'être envoyé.
Oui, il faut souligner qu'il n'y a rien de symbolique du fait qu'une journée, jusqu'à 300 000 barils de pétrole n'a pas réussi à sortir de cette terminus. Alors, si ce n'était pas déjà clair, félicitations à vous deux et toute votre équipe, parce qu'il y a plusieurs impliqués, surtout probablement des personnes en arrière de l'action aussi, qui est nécessaire pour ce type d'action. Alors, félicitations pour cette action. Mais Jacob, tu viens de parler de Enbridge 9B et l'avidité de cette coopération. Mais d'abord, je pense beaucoup de monde, même les gens qui sont conscients de l'environnement, etc., sont un peu surpris de le fait qu'il y a déjà plein des oléoducs en Ontario, au Québec, parce qu'on parle beaucoup de qu'est-ce qui se passe en Alberta, en Colombie-Britannique, etc. Alors, est-ce que toi ou Emily, vous pouvez parler plus de cet oléoduc en particulier, Enbridge 9B? Qu'est-ce que cet oléoduc fait chaque jour? C'est quoi le déversement, les fuites qui ont passé récemment? C'est quoi les conséquences de les potentiels déversements ou fuites dans le futur à notre eau, etc.? Parlez plus de les oléoducs qui existent déjà, parce qu'il y a une certaine dynamique, je sais c'est superficiel, mais que ça existe que, ah, ça c'est un problème de l'ouest du Canada, c'est Alberta qui se plaint des oléoducs, mais regarde, ici au Québec, en Ontario, on a eu des oléoducs depuis longtemps et on n'est même pas au courant de les conséquences de ces oléoducs à notre vie quotidienne. Alors, parlez plus de ça. Je commence peut-être cette fois avec Jacob et puis Emily.
Oui. Je comprends l'argument, le présupposé que les gens se disent que peut-être que c'est un problème d'Alberta, right? Mais il faut se dire que ce pétrole-là qui sort des terres albertaines, ce pétrole-là doit se déplacer pour se rendre quelque part, right? Et donc, le Québec est un endroit qui est vraiment bien situé pour ça. Le Québec reçoit beaucoup du pétrole de l'Alberta pour ensuite pouvoir l'exporter ailleurs. Et donc, ce pipeline-là, la ligne 9B, c'est vraiment comme l'exemple parfait de quoi ne pas être en tant que pipeline, en fait. Donc, c'est un pipeline qui est vieux de 45 ans, comme un peu plus de 45 ans même. C'est un pipeline qui est tellement vieux, qui est dangereux, qui a des fuites partout, qui est corrodé. Il y a eu des milliers de fuites depuis sa création. Depuis même les 10 dernières années, 20 dernières années, il y a eu des milliers de fuites, surtout avec les lois québécoises par rapport aux fuites. La majorité des fuites n'ont pas besoin d'être dites au public, en fait. Le public n'a pas besoin de savoir ça au Québec. En Ontario, c'est un peu différent. Mais au Québec, on a vraiment des lois qui sont nulles par rapport à ça. Et donc, ouais, le pipeline 9B, le problème vient aussi du fait que, comme Émilie disait tantôt, c'est le pire pétrole que l'Alberta peut produire. C'est ça, c'est du bitume dilué. Et donc, ce type de pétrole-là, c'est un peu technique, là, mais ce type de pétrole-là, dans le fond, il est très, très lourd. Et un peu comme l'expliquait tantôt Émilie, si ce pétrole-là se rend dans l'eau, il va aller au plus profond possible. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment particulièrement difficile, encore plus que les autres types de pétrole, à sortir de l'eau. Et donc, c'est vraiment un pétrole qui est capable d'infecter énormément d'eau, avec même une petite fuite peut infecter énormément d'eau. Et d'un point de vue juste comme humain, c'est 3 millions de Québécois et Québécoises qui vont être affectés s'il y a une fuite dans la rivière du Outaouais, la rivière des Prairies, la rivière des Mille-Îles, le fleuve Saint-Laurent. Parce que c'est ça, ça va affecter toutes les entrées d'eau de la ville de Montréal vont être affectées s'il y a une fuite de la ligne 9B. Et comme on peut le voir avec les multiples fuites de la ligne 9B par le passé, je ne serais absolument pas surpris d'apprendre qu'il y a une fuite hier et qu'on n'est pas au courant. Et je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il va y avoir une fuite demain. C'est vraiment un pipeline qui ne peut plus fonctionner. Ouais, je ne sais pas vraiment quoi dire de plus, que c'est vraiment comme il n'y a rien de pire en termes de pipeline au Québec. C'est quelque chose qu'on peut pas permettre. On peut pas se permettre que ça continue comme ça. À chaque seconde, ça met en danger la vie des millions de personnes.
Emily, est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Oui, peut-être juste spécifier que à cette action-ci, là, une des demandes directes là, du collectif Antigone par rapport à la ligne 9B, ça serait d'effectuer des tests hydrostatiques sur l'ensemble du pipeline pour assurer sa sécurité. Il faut savoir qu'en 2015, il y en a eu, mais ils ont juste été réalisés sur une petite portion du pipeline au Québec. Ils avaient accepté d'en faire sur trois tronçons seulement, pardon. Puis il y a juste un test qui avait été fait au Québec sur une portion de 20 km à la hauteur de Mirabel. Puis la portion de 3,5 km en dessous de la rivière des Outaouais, elle n'a pas été testée comme ça. Fait que même quand l'entreprise accepte de faire des petits tests, c'est très, très, très partiel. Puis, non seulement ça, mais dans le cas probable, en fait, d'une fuite, ce qui arrive, c'est que nos infrastructures de décontamination de l'eau, les usines de filtrant, ils n'ont pas les équipements pour composer avec les déversements d'hydrocarbures. Fait que rapidement, en l'espace de 3 jours, là, il n'y a pas de réserve d'eau, en fait, pour des millions de personnes, oui, dans la grande région de Montréal, mais ailleurs au Québec également, parce que ces cours d'eau-là, ils sont multiples. Fait que oui, ça fait partie aussi des éléments spécifiques à la ligne 9B, puis à la compagnie Enbridge, qui a vraiment rien, qui fait aucunement la démonstration de sa responsabilité comme entreprise ou de son engagement. Puis souvent, ce qui est super alertant aussi, c'est que c'est des citoyens, en fait, qui m'ont remarqué quand il y a des fuites. Là, c'est même pas la compagnie qui est en mesure de détecter elle-même parce qu'elle n'a pas ces systèmes-là.
Pour vous donner un exemple, avec Kalamazoo, ce qui s'est passé, c'est que la compagnie a remarqué qu'il y avait une baisse de pression dans le pipeline qui était, on leur a appris par la suite, liée à une fuite. Mais leur première réponse, ça n'a pas été de s'alarmer, ça a été d'augmenter la pression dans le pipeline, ce qui a empiré la situation de la fuite. Et c'est ça, c'est vraiment, c'est des citoyens et citoyennes qui ont réalisé que la compagnie faisait n'importe quoi. Donc, il n'y a vraiment aucun sentiment de comme confiance qui peut être donnée à cette compagnie-là. Elle est incompétente et elle est dangereuse.
Le site de Valero, c'est un symbole, bien sûr, un symbole de les fossil fuels, les pétroles, etc. Mais ce n'est pas aussi symbolique parce que vous avez réussi à perturber l'opération d'un oléoduc. Mais vous avez choisi un symbole qui était direct. Et ça, c'est une réponse, je pense, à les critiques qui étaient faites il y a 3 ans quand trois grimpeurs et grimpeuses ont réussi à dérouler une banderole sur le pont Jacques-Cartier. Mais ça a résulté à une perturbation de trafic pendant l'heure de pointe. Ce n'était pas nécessaire de perturber le trafic, je pense, mais le policier a décidé de fermer le pont pour arrêter les grimpeurs, grimpeuses. Mais la réponse à l'époque, il y a 3 ans, c'était des manchettes. C'était les médias 24 heures parlaient de ça. C'était des questions sur tout le monde en parle, etc., etc. Il y a eu des bons médias, je pense, avec cette action que vous avez faite le 19 octobre 2022. Mais les réactions n'étaient pas si intenses qu'on a vu il y a 3 ans. Alors, parlez de cette hypocrisie où, en anglais, on dit « damned if you do, damned if you don't ». Alors, vous choisissez un symbole très direct, mais vu qu'il n'y a pas vraiment de perturbation de plus que l'opération économique d'Enbridge, qui est une grande perturbation, il faut dire, la réponse médiatique un peu moins. Alors, parlez de cette hypocrisie et aussi comment rejoindre le monde avec votre message. Est-ce que c'est mieux de choisir des symboles qui perturbent plus et moins symboliques et moins directs avec l'action ou est-ce que perturbation économique, ça, c'est la voie à faire dans le futur s'il n'y a pas un grand changement des politiques de gouvernement, des coopérations vis-à-vis les pétroles? Mm-hmm. Vous pouvez répondre à ça.
Oui, peut-être en ce qui concerne la réaction médiatique, Aurélie Longtou, elle a écrit un texte là, vraiment qui met le doigt sur la situation, ça s'appelle la soupe chaude, puis elle mentionne justement que l'action vraiment a respecté toutes les règles de la respectabilité sociale, donc agir pacifiquement, cibler le mouvement du capital et pas le quotidien ou la propriété des gens, ne pas endommager des biens culturels précieux, formuler un message ciblé, clair, vraiment que tout y était, mais qu'il n'y a pas eu un dixième de l'attention que l'action sur le pont a eu en 2019. Même moins de temps d'antenne, en fait, que les actions là, de gens qui dégonflent les pneus, de VUS, tout ça. Fait que ça pose vraiment une question où, quand les activistes font des actions choc, en fait, quand ils choquent de par le message ou le moyen, les caméras sont là, l'encre coule beaucoup dans les journaux, les chroniques. On est rapide à critiquer, mais quand en fait, ça se déroule pacifiquement puis les cibles sont claires, là, il y a à peine de gens, il y a moins d'intérêt et tout ça. Dans la même semaine, en fait, il y avait beaucoup d'actions en Europe, là, entre autres Just Stop Oil, des plus jeunes activistes là, qui ont mis de la... qui ont jeté de la soupe aux tomates là, sur la vitre de certaines grandes œuvres dans des musées. Puis, mais même au sein des activistes, en fait, on se pose la question, on se dit, mais en fait, des mois, voire des arrestations, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, plein de personnes mobilisées, beaucoup de risques qu'on prend. Ça s'est bien passé, mais il peut toujours avoir des blessures ou des accidents ou des imprévus. Donc, beaucoup, beaucoup d'énergie déployée par des gens qui ils font ce qu'ils peuvent, mais leur formation, c'est pas de la logistique de haut niveau comme ça. Tout ça pour vraiment avoir peu de temps d'antenne, peu de résonance médiatique. Alors que acheter une canne de soupe, avoir son téléphone, puis un peu de colle, puis des dizaines de millions de personnes ont vu les vidéos, on en parle partout à travers le monde. Fait, au niveau stratégique aussi, après, on peut discuter si ça fonctionne ou pas, si ça permet de mettre le message de l'avant, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grande hypocrisie médiatique. Puis nous, pendant toute la journée, il y a plein de lives qu'on était censés avoir, des entrevues avec les journalistes, puis souvent, il y avait juste, on était sur le point que ça se passe, puis après, il y avait un silence radio, puis même avec des médias pour lesquels il y avait des bons partenariats. Mais, c'est vraiment alarmant, en fait, ce désintérêt-là médiatique de braquer les projecteurs quand il y a des gens qui se mettent en marche, qui se mobilisent et qui choisissent des bonnes cibles. C'est vraiment à se questionner là, jusqu'où l'influence des lobbies s'étend. Puis oui, ça pose des questions aussi sur qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, mais assurément qu'on va devoir continuer de faire des blocages économiques. C'est probablement pas une action qui va être suffisante. Ça va en prendre des dizaines, ça va en prendre des centaines. Aux quatre coins de la province, par plein de groupes sociaux, des travailleurs, des étudiants. Il va falloir être très, très, très créatif. Puis on invite tout le monde à faire partie de la discussion puis à s'engager directement parce que le but d'actions comme ça aussi, c'est pas forcément de convaincre les gens de l'existence de l'urgence climatique, c'est d'amener les gens qui sont déjà au courant, qui posent des gestes individuels à se mobiliser politiquement et collectivement parce qu'il va vraiment falloir qu'on s'organise à large échelle là, pour faire un contre-pouvoir suffisant et assez rapidement aussi.
Jacob, est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Oui, moi je rajouterais peut-être que, tu sais ça, on a perçu avec cette action-là que clairement les médias n'étaient pas intéressés. C'est ça, là, j'ai comme l'impression de tomber dans le conspirationnisme, mais c'est vrai que la question se pose de comme jusqu'où se rend le lobbyiste pétrolier. Parce que dans n'importe quel autre contexte, une action de ce genre-là, en considérant que ça reste l'occupation la plus longue de l'histoire par rapport à une cible de ce genre-là, tu sais, c'était une action qui était historique, mais qui a été comme overshadowed par, tu sais ça, comme des activistes avec de la soupe, une colle et un téléphone. Et donc, d'un point de vue médiatique, c'est sûr qu'il y a des questions à se poser, mais ce que je perçois à travers le mouvement militant des gens qui sont déjà mobilisés, c'est que ça les a vraiment plus mobilisés, ça les a motivés. Moi, je travaille avec le mouvement étudiant, principalement dans mon temps libre. Et donc, le mouvement étudiant a vraiment été motivé par cette action-là, beaucoup plus que par l'action du pont et plus que par la grève des 500 000 personnes en 2019. Ce qu'on peut voir, c'est vraiment ça, c'est que ça donne de l'espoir par rapport au type d'action possible. C'est sûr que ça aurait été l'idéal d'avoir une énorme couverture médiatique puis d'avoir tout ça, mais moi, je me réconforte en me disant que voir les gens se mobiliser plus profondément dans les gens qui sont déjà mobilisés, c'est aussi un avantage de ce type d'action-là, je pense.
You're listening to Noah's Legal Radio, part of CKUT's Off the Hour at 90.3 FM in Montreal and www.ckut.ca worldwide. You're listening to an interview in French with Emily Zajko and Jacob Pirro, who are both part of the disruption and occupation of the Valero oil terminal of the Enbridge 9B pipeline in Montreal East on October 19, 2022, a direct action that successfully prevented the delivery of upwards of 300,000 barrels of oil on that day. We'll continue with that interview now. Emily et Jacob, pour terminer notre entrevue en français, il y a un sous-entendu dans presque toutes vos réponses. Et le sous-entendu, c'est pas juste Enbridge et 9B le problème. C'est pas juste 7 au lieu 2. C'est pas juste Valero. C'est un système. C'est un problème systémique et structurel. Un système économique, un système économique qu'on peut décrire capitaliste, colonialiste. Alors, parlez plus de l'analyse plus large dans laquelle votre action était entreprise. Il y a eu des critiques, il y a toujours des critiques des environnementalistes, si on peut dire ça, qui parlent d'une catastrophe, qui parlent d'urgence quand... et puis certains de ces environmentalistes parlent d'une catastrophe, parlent d'une urgence sans souligner le fait que, regarde, ces dynamiques ont affecté les peuples autochtones, les peuples tiers-monde pour des décennies et des décennies. La catastrophe est déjà ici pour plusieurs populations historiquement. Alors, parlez de cette analyse plus large dans laquelle vous avez entrepris votre action. Peut-être Jacob, vous pouvez commencer. Tu peux commencer.
Ouais, absolument. En fait, je pense que dans le milieu militant, il y a vraiment deux façons de percevoir notre militantisme environnemental. Il y a vraiment l'aspect de comme pour nos enfants et l'aspect de pour les gens qui le vivent déjà. Right? Et souvent, on a de la difficulté dans nos actions à mettre les deux en commun. Mais je réalise que ce genre d'action-là, c'est ça, tu sais, c'est toucher un pipeline, c'est toucher la ligne 9B en particulier. Mais ça reste que si la ligne 9B fermait demain matin, on ne serait pas sorti de notre problème de société. Et même si tous les pipelines fermaient demain matin, on ne serait pas sorti de notre problème de société fondamentalement. C'est sûr que je pense que c'est impossible de vraiment sérieusement parler de militantisme environnemental ou juste d'écologie en général sans avoir une compréhension du capitalisme et de en quoi est-ce que ce système économique-là, basé sur tous les types d'oppression qu'on connaît, comment est-ce que ce système économique-là nous mène de n'importe quel moyen qu'on peut penser à modifier ce système-là, tant que ça reste un système où on va avoir un surplus de profit, où on veut avoir un développement infini, sur une croissance infinie sur une planète avec des ressources finies. Tu sais, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps. Mais j'ai l'impression que c'est encore quasiment tabou de parler d'anticapitalisme dans plusieurs milieux écologiques. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui se doit d'être pris en compte dans nos réflexions, dans nos actions. Et c'est pour ça que, à mon avis, ce serait une erreur de se dire que la crise environnementale, c'est comme une priorité sur les autres luttes. J'entends souvent ça. Mais ça ne peut pas être une priorité sur les autres luttes parce que la crise environnementale, c'est le symptôme de ces autres luttes-là. Right? Genre c'est un symptôme du colonialisme, c'est un symptôme du capitalisme, c'est un symptôme du patriarcat, c'est un symptôme de tous ces mots-là qui sont comme des mots qui englobent des grosses idées, mais ça reste que quand on se présente comme des activistes environnementaux, je pense qu'il y a comme un sous-entendu pour les activistes qui se battent puis qui veulent vraiment faire une différence que quand on dit environnementaux, on veut vraiment dire qu'on se bat contre les types d'oppression qui nous force à devoir régler ce problème écologique qui est vraiment ça, le symptôme du capitalisme, comme on peut le voir. Et donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très difficile à parler, en fait, dans les médias, parce qu'on est vraiment dans une société puis dans un type de média qui est avec les catchphrases, c'est les entrevues de 15 secondes, les espèces de... les lignes de com, ce qu'on doit sortir, les lignes de communication qu'on se doit de sortir pour essayer de faire passer un message qui est clair. Mais la solution à ce problème-là, c'est pas une solution qui est évidente, c'est pas une situation qui est simple, et c'est pas une solution qu'on va pouvoir régler avec des entrevues de 15 secondes. C'est vraiment quelque chose qu'on se doit de réfléchir collectivement. Puis je pense que c'est ça le pouvoir de ce genre d'action-là, c'est justement de comme prendre une pause tout le monde ensemble puis de dire « Ouais, c'est une possibilité, c'est quelque chose qu'on est capable de faire en tant que simple citoyen, simple citoyenne. On est capable de prendre un temps pour réellement réfléchir aux solutions possibles de cette crise-là. »
Et Emily, vous pouvez parler de ce sujet un peu?
Oui, ben, je pense que c'est essentiel de toujours ramener la notion de justice environnementale au cœur des actions, au cœur des réflexions, puis de tout le monde, on a comme une responsabilité individuelle à s'éduquer sur ces questions-là et collective aussi à maintenir ces cultures-là dans nos groupes. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Il faut être solidaire des luttes des différentes nations autochtones qui sont vraiment au front, en fait, puis à l'avant-plan de plein de différentes luttes. La campagne le Quit RBC a mis beaucoup ça de l'avant, en fait, à quel point les banques ne respectent pas le mode de gouvernance, ne s'assurent pas d'avoir le consentement, en fait, des chefs héréditaires sur lesquels les infrastructures passent. Fait que je pense qu'il faut être présent dans, au moment où on demande des soutiens aux groupes alliés, à vraiment sérieusement réfléchir, ben, pas, en fait, d'être éveillé à toutes les questions de redonner de land back, en fait, de aux gens qui savent en prendre soin, en fait, historiquement, puis d'être soutenant là-dedans. Après, ben, je pense qu'on a aussi, le Canada, le Québec, une responsabilité historique, en fait, par rapport à l'urgence climatique. Fait que, encore, là, des rapports sortaient dernièrement à quel point les pays riches n'ont pas versé les fonds que les pays à l'échelle mondiale qui sont directement affectés par l'urgence climatique réclament, sur lesquels ils s'étaient entendus. Fait que, ça va prendre vraiment que, en fait, qu'on donne des redevances, qu'on soutienne financièrement les pays qui sont déjà affectés. Puis après, c'est pas juste aussi de nous faire de l'électrification puis de délocaliser notre propre pollution. Il faut sérieusement mettre en application là, des principes de sobriété énergétique, de décroissance, parce que ça ne pourra pas fonctionner. Le Nord va vraiment devoir décroître, puis qu'on rééquilibre un peu la distribution des richesses. Il faut vraiment adresser toutes les politiques coloniales, extractivistes. Définitivement, le capitalisme, en fait, est basé sur l'exploitation des différentes populations, des ressources de la terre, des différentes espèces. Alors, oui, on ne pourra pas juste faire du développement durable ou, en fait, ça va juste être pollué moins pendant plus longtemps, puis au détriment de plein de populations. Fait que c'est impératif, en fait, d'avoir une logique là, décoloniale. À tous les niveaux anticapitalistes, puis surtout de soutenir, de partager en fait le fardeau là, de ce que ça représente l'urgence climatique pour tout le monde.
Emily et Jacob, membres du collectif Antigone, j'ai l'impression qu'on a entré dans la profondeur de cette action, mais en même temps, on a juste commencé la discussion, mais on a parlé déjà beaucoup de temps, alors merci pour partager votre point de vue sur l'action directe contre Enbridge Line 9B le 19 octobre 2022 ici à Montréal. Merci pour parler avec nous sur No Borders Media.
Merci à toi.
That wraps up the November 2022 edition of No One's Legal Radio. No One's Legal Radio is part of No Borders Media and the CKUT Communities Collective's Off the Hour at 90.3 FM in Montreal, www.ckut.ca on the web. No One's Legal Radio highlights the struggles of communities in resistance with a focus on the self-determination struggles of Indigenous peoples, migrants, refugees, and working-class people of color. Stay tuned for Upstage.
evening. It's 6 o'clock. You're listening to Upstage on CKUT 90.3 FM and at CKUT.ca, the show about theater on the radio, from drama to musicals to burlesque to comedy and everything in between. Professional, student, and community productions in and around Montreal, the island also known as Dojage in Ganyangaha and as Muniang in Anishinaabe Mohin, where we spell theater with an R-E at the end. I'm your host, Sarah Day, with you live in studio on Thursday, November the 3rd, 2022. On tonight's show, so much to get to, The Covenant explores a town with a terrible secret in June 1944 in Czechoslovakia. I'll speak with actor Jonathan Silver about this World War II-era play that talks about hidden atrocities. Shakti Rising combines Indigenous and Indian storytelling and dance. I'll speak with the creator, dancer, and choreographer Amrita Chowdhury. She's going to have a lot of really interesting things to say. And two artists from Spain and Catalonia have traveled all the way to Montreal to present their call to end the horror of femicide. Agnes Mateus and Kim Torita will be my guests before the end of the hour. Their new show is called Rebota, Rebota, and it's at La Chapelle Saint-Claude-Caparin. It's actually opening in the next 2 hours, but they'll be my guests before we close out our show. It is a beautiful evening in Montreal. It feels like we're in a warm second summer. Can't believe it. It's currently 16 degrees in the city. And you can tell people are walking around without jackets. They're peeling off the hats and the gloves. We have a couple of really nice days ahead of us. I'm really excited this weekend to catch one of the